CMDN est en direct du Festival d'Avignon.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est vers le passé que nous allons nous tourner aujourd'hui pour cette deuxième émission de la saison à Avignon, avec des objets et des lettres. Les lettres, ce sont les lettres d'excuses que Patrick Chesnay lit au public du théâtre actuel, partageant avec lui ses regrets, mais aussi quelques anecdotes savoureuses et hilarantes liées à son métier d'acteur, un petit régal sucré-salé. Les objets, ce sont ceux qui forment le sanctuaire du chagrin, érigé à la collection Lambert par la metteuse en scène Lorraine de Sagazan et la scénographe Anouk Maugin, qui raconte avec poésie les traumatismes d'hier pour mieux les dépasser. C'est avec elle que nous allons commencer et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là. Monte di Pietà, c'est le titre de cette œuvre que vous présentez donc à la collection Lambert jusqu'au 1er septembre dans le cadre du Festival d'Avignon et de la Biennale de Lyon. Alors on est un peu dans une forme hybride, Anouk Maugin. On pourrait appeler ça une exposition, installation, performance, une installation performative. Quel est le bon vocable ?
Oui, c'est ça. C'est une installation qui est activée parfois par des performances, mais c'est vraiment une installation plastique.
Mais qui a été conçue pour les musées.
Oui, tout à fait.
Alors cette œuvre, Lorraine de Sagazan, c'est le fruit d'une partie des recherches que vous avez entrepris à Rome, hein, à la Villa Médicis, avec l'idée d'inventer un rituel de justice par le théâtre. En quoi le théâtre serait-il un ferment, un vecteur de justice, autrement dit de réparation ?
Voilà, il y a beaucoup de choses différentes parce que la réparation, la justice, le rituel, c'est des choses très très différentes et je pense finalement, en tout cas, mon projet à la Villa Médicis, c'était de travailler sur les alternatives à l'institution judiciaire, donc les alternatives à la logique police, tribunal, prison, et donc de travailler sur le contre-espace à partir d'histoires vraies et de voir comment par la forme des œuvres théâtrales, ou là en l'occurrence non théâtrales, puisque c'est une installation comme Anouk le disait, pouvait évoquer justement le contre-espace et quelque chose qu'a théorisé Foucault à la fin des années 60 qui s'appelle l'hétérotopie, c'est-à-dire la contre-utopie. Donc non pas représenter le réel, comme si le réel n'était pas suffisant, mais inventer des espaces, inventer du temps qui permet de changer de paradigme autour d'un sujet. Donc en effet, ce lieu, Monte di Pietà, comme un temple de la douleur, représente un espace qui précisément n'existe pas.
Alors l'installation est construite à travers 200 objets. Comment vous les avez trouvés, ces objets ? On vous les a donnés ? Vous êtes allé les chercher, les collecter ?
Bah, c'est un petit peu les deux. En fait, on a commencé un protocole de travail en 2020 au sein de la compagnie à partir d'un protocole de rencontre. On avait décidé d'annuler le projet qui était celui de l'époque, qui était une adaptation du Décalogue de Kieslowski, et on s'est lancé dans un protocole de rencontre. On avait demandé au théâtre qui devait accueillir le spectacle de nous permettre de rencontrer autant de gens que de jours gâchés par la crise. Et avec une partie de l'équipe, notamment dramaturgique, Guillaume Poix qui a écrit sur les spectacles, mais aussi les interprètes, etc. On a rencontré à peu près 300 personnes en fait dans les théâtres fermés, et c'est un protocole qui a résisté au fur et à mesure des années et qui nous a conduit avec Anouk en effet à rencontrer des personnes qu'on continue à rencontrer, qui continuent à nous déposer parfois des objets, comme c'est le cas en ce moment à la collection Lambert. Il y a vraiment un appel à la collecte. Les gens peuvent déposer un objet avec une petite lettre pour raconter leur histoire d'injustice, et nous, ce sont des objets qui petit à petit sont intégrées par Anouk et moi dans l'installation à chaque fois qu'elles sont reprises. Donc l'installation est augmentée au fur et à mesure des rencontres.
Donc c'est vraiment une installation évolutive, ça veut dire qu'on retire des objets à Anouk Maugin pour les remplacer par d'autres ?
Non, ils s'accumulent en fait. À chaque fois, l'installation grandit. Donc on a encore plein de clous sur lesquels on peut installer ou clouer les objets, et puis il y a des étagères qui seront rajoutées au fur et à mesure.
Oui, parce que chaque objet en fait est muni d'un fil auquel est suspendue une étiquette double face avec d'un côté un prénom et de l'autre un numéro au fond de la salle de la collection Lambert. Donc il y a des objets qui sont alignés sur un mur d'étagère de façon très, très régulière. Il y en a aussi au sol sur un lit de gravier, et sur le mur de gauche quand on entre, les objets sont alors soit pendus à des clous, soit les clous sont les supports des objets. Parfois le clou transperce littéralement l'objet. C'est le cas par exemple pour un passeport ou pour un emballage de saucisses de supermarché. Comment est-ce que vous avez choisi la place des différents objets ? On a l'impression de quelque chose de très méthodique.
Bah oui, c'est ça. En fait, on s'est donc l'installation s'appelle Monte di Pietà. Donc on s'est intéressé aux Monte Pietà, qui sont des organismes de prêt sur gage, et dans lesquels on venait ou on peut encore venir déposer un objet en échange d'argent.
Et d'où ces l'étiquette objets... et les identités associées.
Ouais, tout à fait. Et ces objets étaient à l'époque soit cloués au mur, d'où l'expression mettre au clou, soit archivés sur des étagères. Et donc nous, ça nous intéressait notamment de reprendre le principe des clous pour même le geste de violence qui raconte, en fait.
Oui, parce que le clou qui transperce cet objet, c'est d'une violence absolument insigne. Tout de suite, on se dit, il y a le traumatisme que vous évoquez, la reine de Sagazan, et puis il y a cette violence qui, finalement, est à la base des histoires que vous racontez à travers cet objet.
Oui. Je pense que la douleur donc liée aux conséquences de l'injustice, qui est le terreau dans lequel Monte di Pietà s'inscrit, c'est vraiment un des angles morts de la justice institutionnelle qui aujourd'hui s'organise beaucoup plus autour d'un droit répressif que d'un droit restitutif, c'est-à-dire qui fait assez peu de place pour les victimes. Il y a une espèce d'exaltation de la punition, de la recherche d'un responsable. On le voit bien aujourd'hui, une obsession sécuritaire qui fait que les victimes, la souffrance, la blessure n'est jamais ou très rarement au centre du propos de la justice institutionnelle. Et c'était une manière d'inventer un espace dans lequel cette chose-là est visible.
Vous parliez de restitution à l'instant. Tout à l'heure, j'avais employé le mot réparation. Vous avez dit, attention, il y a une petite différence. Et pourtant, quand on parle d'objet, on peut penser justement, on parlait de troc aussi tout à l'heure, on parlait justement de ce processus de réparation. C'est pas un mot que vous reprenez à votre compte dans le cadre de cette installation?
Non, parce que je crois qu'en fait, ça me concerne pas tant que ça, moi, la réparation. Enfin, en tout cas, je veux dire par là, il s'agit de la perception peut-être qu'ont les gens dans leur rapport au fait de donner un objet, de le voir exposé, de raconter une histoire, de se débarrasser. Mais je pense aussi, et puis je pense aussi qu'il y a un peu une injonction qui existe pour les artistes femmes aujourd'hui de pallier l'insuffisance de certaines institutions en passant par la réparation, par la douceur, par la bienveillance, etc. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de très violent dans l'enquête qu'on a menée autour de la justice pendant 2-3 ans, de ce à quoi on a assisté, des témoignages dont on nous a fait part, des objets qu'on nous a confiés, et prétendre à une réparation, je crois qu'il y aurait une forme d'indécence et puis de mensonge aussi. Je crois qu'il y a de l'irréparable partout et qu'il s'agit déjà en fait d'un espace de vérité. Moi, je me suis rendu compte en allant beaucoup au tribunal que je croyais pendant longtemps que l'institution judiciaire cherchait la vérité. Or, l'institution judiciaire, elle ne cherche pas la vérité, elle cherche une vérité judiciaire. Et on peut y faire cohabiter d'autres narrations, d'autres vérités. Et quand je parle de contre-espace, il s'agit aussi de ça.
Alors, dans ce contre-espace, il y a aussi des objets disposés sur le sol, imposés sur un lit de gravier. Il y a un vieux lustre, il y a un énorme nounours en peluche noire, il y a une robe verte, il y a une carcasse de scooter complètement cramée, il y a un duo de guitares aussi qui ont l'air de s'embrasser. Notre réalisateur Pierre Plantier, qui est décidément un homme de son, a repéré tout de suite des micros caché sous le gravier qui s'active quand on marche dessus. Il y a un fil aussi qui relie deux guitares à un ampli et qui fait entendre quelques accords lorsqu'on marche dessus, là encore. Aussi le tac-tac régulier d'un métronome posé sur l'étagère. Pourquoi est-ce que vous avez introduit cette dimension sonore dans l'installation?
En fait, justement, on nous a confié ce fameux métronome.
Et, c'est parti de là, c'est parti de cet objet-là.
Ouais, c'est parti de cet objet-là. En fait, on s'est rendu compte que le bruit était intéressant et puis que c'était aussi un peu comme un comptage des différents objets. Comme un inventaire, en fait, un comptage. Et donc, cette dimension nous a intéressés. Et puis, au fur et à mesure, on nous a confié d'autres objets. Et on s'est dit que voilà, c'était intéressant que le son parte des objets qu'on nous confiait.
Alors, il y a des pochettes de disques aussi. Vous n'avez pas eu l'idée d'installer aussi une forme de musicalité à l'intérieur de l'œuvre?
On ne nous a pas confié de tourne-disque. Donc,
le jour où l'occasion se présentera, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Rien n'est exclu, en fait.
Non, en fait, on ne voulait aussi pas, je crois, accentuer le caractère sensible, c'est-à-dire, en fait, induire pour les spectateurs et les spectatrices ou les visiteurs, induire une sensibilité particulière. Donc, c'était important, en effet, que les objets eux-mêmes soient présents et fassent, comme le disait Anouk, le son, mais aussi les pas des gens qui rentrent dans cette œuvre-là. C'est-à-dire, c'est comme si l'œuvre, elle était ni tout à fait celle des gens, ni tout à fait celle des objets. Moi, j'ai l'impression que c'est une œuvre, c'est toujours l'espace à investir entre les spectateurs et les spectatrices et l'œuvre elle-même. Et donc là, il y a un espace, il y a un interstice qui est aussi travaillé par le piétinement des gens au fur et à mesure des visites.
Mais chaque visiteur a aussi sa propre lecture des objets, parce qu'un objet, c'est une porte d'entrée aussi vers une histoire qui peut être celle des autres, effectivement, mais qui peut aussi être la sienne. Par exemple, il y a un lot de livres de la Bibliothèque Rose. Forcément, ça m'a rappelé des souvenirs. Les disques de Léo Ferré, par exemple, là aussi, ça m'a rappelé un souvenir. Le vieux téléphone portable, là aussi, voilà. Donc, autrement dit, il y a un jeu de miroir qui s'instaure, le Reine de Sagazan, entre le visiteur anonyme qui ne sait pas du tout quelle est l'histoire de différents objets et l'ancien propriétaire de chacun des objets.
Oui, je crois qu'il y a un trouble souvent qui existe face à une œuvre qu'on pourrait ne pas comprendre dans son intégralité, dans l'immédiateté. En tout cas, je le constate beaucoup au théâtre, peut-être moins dans un espace muséal, qui ça pose plein de questions. D'abord, moi, je trouve la question des cartels, là, je m'éloigne un petit peu, mais je trouve ça hyper important de donner une porte d'accès sans tout expliquer dans une œuvre. Donc oui, en effet, il y a une part pour le spectateur de tisser des liens avec sa propre histoire, avec les différents objets, et de venir compléter d'une certaine manière l'œuvre. Et moi, j'aime qu'il y ait ce mystère, c'est-à-dire on sent que les objets sont chargés sans savoir exactement de quoi, et en même temps, là n'est pas l'important.
Alors moi aussi, j'aime le mystère en tant que visiteur, a fortiori quand je vais au théâtre ou dans un musée, mais en tant que journaliste, j'aime bien comprendre quand même. Anouk Mauvin, par exemple, il y a un coin qui fait tout de suite penser à Noël, un arbre de Noël. Il n'y a pas d'arbre, mais à Noël, avec des cadeaux emballés, mais sans arbre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit indice ?
L'indice, c'est l'étiquette qui est accrochée à un des cadeaux. En fait, c'est l'objet de Céline. Donc, c'est un des objets de l'installation, des cadeaux emballés qui n'ont jamais été offerts.
Alors, parfois, le visiteur est totalement libre de se raconter à lui-même sa propre histoire. Parfois, il est un peu guidé. Il y a des mots manuscrits à côté d'une photo. Il y a le PV d'un dépôt de plainte pour viol qui a été anonymisé, hein, évidemment. Et ces histoires-là, eh bien, elles vont prendre voix, le Reine de Sagazan, à travers donc la performance qui est prévue à Avignon les 20 et 21 juillet, entre 11h et 16h30, donc sur deux jours consécutifs. Installation activée par une performance poétique de deux acteurs, Amandine Pudelot et Benjamin Tolozan. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les comédiens ?
Ça a d'abord été la rencontre avec Laura Vasquez, qui est poétesse, écrivaine.
Et qui était aussi en résidence
à la Villa Médicis. Ouais. Et en fait, la Villa Médicis favorise aussi les rencontres et les collaborations. Donc ça a été une rencontre importante pour moi. On a eu envie de travailler ensemble. Et donc, j'ai confié à Laura les récits d'un certain nombre d'histoires qu'elle a pu remettre en mots, comme si les mots aussi pouvaient devenir une sorte d'abri pour les douleurs et permettaient une sorte de distanciation aussi pour les gens, de ne pas voir leurs histoires exposées, même si tout ça est évidemment discuté avec les personnes, enfin les intéressés, tout ça, et évidemment, enfin ça se passe en collaboration, on discute. Et puis ensuite, Laura a écrit ces textes qui représentent l'inventaire de l'histoire de ces objets-là, mais qui contiennent aussi pas mal de mystères, comme dans son écriture, c'est-à-dire tout n'est pas explicite, les choses sont évoquées, sont suggérées, sont amplifiées par sa poésie. Et en effet, les deux acteurs qui sont des interprètes avec lesquels on a déjà eu l'occasion de travailler au fur et à mesure des spectacles avec Anouk, viennent faire l'inventaire de ces objets-là. Mais en fonction de l'heure à laquelle on arrive pour les performances, on va entendre l'histoire de certains objets, mais pas d'autres. Et ça change un petit peu tous les jours, comme une performance, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se répéter.
Et donc, dans ce cadre-là, Anouk Mauvin, cette installation-là, c'est un personnage, c'est un décor, c'est un objet transitionnel, d'une certaine façon. Comment vous voyez les choses ?
L'installation
en elle-même, dans le cadre de la performance.
Dans le cadre de la performance, je dirais que c'est...
Bon, alors j'ai posé la question à Lorraine de Saint-Gazan. C'est un partenaire de jeu.
Enfin, c'est un appui.
Parce que l'installation prend vie d'une certaine façon à cette occasion-là. Et en même temps, c'est tout un ensemble de vie que cette installation à travers les histoires des uns et des autres.
Oui, mais ça prend vie différemment. Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'assister aux performances pour pouvoir assister à l'installation qui vit en elle-même. Donc, c'est plus une autre expérience de l'installation qui est à la fois... mais qui n'est pas simplement un décor. C'est ça qu'on pourrait imaginer. Enfin, c'est pour ça qu'on ne veut pas vraiment mettre la performance dans des théâtres. C'est-à-dire que ce n'est pas le décor pour une performance. C'est vraiment un espace dans lequel un inventaire a lieu et donc dans lequel certaines informations poétiques sont délivrées sur quelques objets.
Merci beaucoup Anouk Pogin et Lorraine de Saint-Gazan. Monte di Pietà, visible donc jusqu'au 1er septembre à la collection Lambert, avec les performances les 20 et 21 juillet. À suivre aussi votre nouveau spectacle, Lorraine de Saint-Gazan, Léviathan. C'est un petit peu plus tard, du 15 au 21 juillet, justement, au gymnase du lycée Aubanel. Spectacle que vous avez écrit avec Guillaume Poix, que vous avez cité tout à l'heure. Il y a un lien d'ailleurs entre Léviathan et l'installation.
Oui, bah déjà Anouk fait la scénographie de Léviathan. Lien, et puis la justice. Le questionnement autour de la justice institutionnelle et la question des alternatives inexistantes en France.
Voilà, on en saura plus. Donc à partir de la mi-juillet, toujours ici dans le Festival In d'Avignon. Merci beaucoup.
Donne-moi les armes, donne-moi ce qu'il faut, fais en sorte de sécher mes larmes. Devant le micro, tous les soirs perdus dans le vacarme. J'ai peur d'oublier, me noyer dans mes états d'âme. Donne-moi les armes, donne-moi les armes. Je veux que tu sois là, je veux que tu restes près de moi. Je décalcule pas, les autres gens mangent pas un gramme.
Les armes, Emma Peters dans la playlist RFI de ce mois de juillet dans BMDN en direct du Festival d'Avignon. Bonjour Patrick Chenet.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous lisez vos lettres d'excuses au théâtre actuel jusqu'au 21 juillet. C'est tous les jours sauf le jeudi. Vous êtes resté un homme de lettres, Patrick Chenet. Je veux dire un homme de lettres qui envoie des lettres, qui en écrit, qui en envoie malgré l'arrivée des courriels, des SMS.
Oui, écoutez... Je ne suis pas encore un homme de lettres. Je vais peut-être le devenir à force d'écrire des livres, mais pour le moment, je suis plutôt un homme de scène ou un homme de plateau.
Mais c'est important pour vous de continuer à écrire avec un stylo et avec du papier ?
Avec un stylo, avec des cahiers de 100 pages. J'aime bien écrire. Je me suis découvert ça un petit peu sur le tard. C'est une commande, d'abord le premier d'éditeur, où j'ai hésité. Puis après, j'y suis allé. J'ai éprouvé un certain plaisir, parce qu'il faut avoir du plaisir quand on écrit, sinon ce n'est pas la peine. Si ouais. on n'a pas de plaisir, on ne donne pas de plaisir non plus au lecteur. Voilà. Et alors, je me suis découvert aussi une certaine facilité. Disons que c'est mon stylo qui décidait, commandé par une partie encore non explorée de mon cerveau. Et il se trouve que ça marchait. Enfin, ça marchait.
Donc l'accouchement a été relativement simple. Vous n'avez pas eu de l'écriture douloureuse. Parce que quand on doit s'excuser, on se dit, oulala, ça peut faire peur.
Ça peut être une facilité de s'excuser.
Oui.
D'abord, donc, vous savez, comme c'est un festival de théâtre et que je suis un homme de théâtre, s'excuser, c'est un préalable. C'est une façon d'engager... un rapport, une conversation ou un échange. Parce qu'il y a plusieurs façons de se servir du mot excuse. D'ailleurs, il y a autour du mot excuse tout un tas de termes. Il y a chercher les excuses, trouver les excuses, des bonnes excuses, des mauvaises excuses, ne pas avoir d'excuses, etc. etc. Donc, et puis, on peut se servir des excuses pour justement créer un... Ça peut être... un préalable pour quelque chose de plus conflictuel ou de plus tendu.
Mais alors, quand on écrit une lettre d'excuses, quand on présente ses excuses, on les fait pour les autres ou on les fait pour soi, Patrick Chenet ?
Non, je suis toujours un peu dans la représentation. De toute façon, on a toujours beaucoup d'excuses à donner. Toi, donner des excuses. Toujours, puisqu'on est imparfait par définition, donc il y a des moments où on commet des erreurs, où on ne fait pas attention, où on peut être blessant, même sans le vouloir. Donc il y a une succession, une addition d'excuses qui s'accumule au cours d'une vie. Donc je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen, parce qu'il y a une théâtralité dans l'adresse à quelqu'un. Et ce n'est pas simplement qu'à quelqu'un, d'ailleurs, à des personnes. Je m'excuse aussi auprès de moments, d'endroits, de situations, d'années, auprès du soleil, jazz. Il y a toute une panoplie d'excuses. Donc voilà. Ça crée une théâtralité, parce que quand on s'adresse, disons, à quelqu'un, on s'adresse aussi au public. Le public s'identifie à ce quelqu'un, plus ou moins. Donc il y a une espèce de force et d'éléments de jeu théâtral avec le public. C'est ça qui me plaît bien aussi.
Alors, la première lettre du spectacle, quand je suis venu vous voir, elle était adressée à votre fils Ferdinand, ce fils que vous avez perdu dans des conditions si brutales que dramatiques. On en avait parlé avec vous, hein, d'ailleurs, quand vous avez publié ce livre très émouvant, La vie est belle, je me tue à vous le dire. Extrait du spectacle.
J'ai des excuses à adresser à tout le monde. Je commence par toi, à tout Seigneur. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne peux pas dire « qu'est-ce que tu deviens, mon grand ?» ni « alors quoi de neuf ?» Attends, je vais trouver mieux. Tu me manques. Là, voilà, ça y est. Là, cette fois, on est sur des bons rails. Je voulais donc te présenter toutes mes excuses, te dire que j'étais désolé, et même bien plus que ça, enfin, m'excuser. Quoi ? Il n'y a rien d'autre à dire. Je m'excuse de ne pas t'avoir protégé. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir le papy idéal dont tu aurais rêvé pour tes petits descendants, même si j'aurais voulu changer le nom de papy en bon papa ou grand papa ou Patrick ou pape, essayer d'éviter Pep, mais au vrai, je m'en fous.
Ce spectacle, Patrick Chenet, devait forcément commencer avec Ferdinand.
Le livre, oui. Le spectacle, je me suis posé la question parce que... je voulais pas... je cherche le mot qu'il faut, pas indisposer, mais c'est vrai que ça jette un froid.
Voilà.
Les gens
se disent « oulala ».
Allez, ça commence bien, alors que le spectacle est drôle.
Par moment, mais absolument, et on va en entendre quelques extraits savoureux.
Une lettre à son fils disparu, c'est pas anodin.
Ça donne tout de suite une tonalité plus lourde.
Donc, c'est vrai que je sens que les gens retiennent leur souffle, et que c'est un exercice assez difficile pour moi. Enfin, je suis un acteur, donc je m'arrange avec tout. Oui, il y a beaucoup de lettres à Ferdinand. Il a fallu faire un choix et j'ai choisi celui-là. J'ai choisi de commencer par là.
Alors la mort, la vieillesse, la peur de la maladie et de la dépendance, la déchéance physique et mentale, morale, la vie en maison de retraite. Oui, mais on va commencer, on va terminer en riant et voilà. Mais c'est vrai que la question de la fuite du temps, d'une façon générale, la question de la mort, la question du temps qui passe, ces thématiques très voisines sont quand même très présentes dans ce spectacle. Patrick Chesnais, est-ce que vous avez un problème avec la vieillesse ? Est-ce que c'est l'être humain que vous êtes qui a un problème avec la vieillesse ou est-ce que c'est l'acteur qui en a un ?
Non, simplement, vous savez, le bouquin a 64 chapitres, j'en ai extrait 21, évidemment. Le spectacle dure une heure et quart, 1h20, par là, donc il a fallu faire des choix, il a fallu organiser et construire ça un peu comme une représentation, un peu comme un musical, c'est avec des moments forts, des moments doux, des moments rythmés, des moments rigolos, des moments plus durs, etc. Alors pour revenir à ce que vous dites, j'ai trouvé que c'était, comment dire, j'en parle d'une façon assez marrante quand même.
Mais oui.
Ben évidemment, c'est là, la thématique est là.
Oui.
C'est le temps qui passe. Je m'excuse auprès du temps qui passe, je ne l'ai pas vu passer. Oui. J'ai dit un moment.
Oui. Il y a même une lettre d'excuse à votre année de naissance.
À mon année de naissance, voilà. Je rigole avec ça. Je rigole avec les gens qui me demandent mon âge, etc. Donc, si vous voulez, il y a toujours derrière, je pense, j'espère, j'en suis même sûr, de l'humour et des moments où on rit, même si ce n'est pas des éclats de rire, mais il y a toujours une distance, une dérision par rapport à ça. Mais c'est vrai que y a le thème de la vieillesse, mais aussi le thème de la jeunesse qui est passée, le thème...
Ce qui revient à peu près au même.
Le thème de la mort, parce que j'engueule la mort.
Oui.
Parce que on a envie d'engueuler la mort. C'est pas rigolo, la mort. Donc je me colbatte avec la mort. Oui, effectivement. Alors, si vous voulez, peut-être que la semaine prochaine, j'ai peut-être changé. C'est-à-dire, je vais prendre d'autres extraits avec des choses... Rigolade.
Bon, mais on va rire, on va vous écouter, on va rire, parce que c'est vrai que l'humour, ce spectacle, on est absolument truffé. Ben, on vous connaît un petit peu, Patrick Chesnais, quand même. Exemple avec ce dîner pendant le Festival de Cannes.
Le hasard me plaça en face de Naomi Watts. J'avais à mes côtés un jeune metteur en scène brésilien célèbre avec qui je sympathisais. Naomi s'exprimait en anglais, leur aidant et les excellents grands crus facilitant. Avec mon nouveau pote brésilien, qui maîtrisait parfaitement le français, lui, nous commençâmes à rendre un hommage sémantique et machiste à notre voisine de table. Il était question de sa silhouette parfaite, de sa poitrine enivrante, de sa bouche gourmande, de ses yeux prometteurs, ses cheveux si sensuels, ses doigts ensorcelants, enfin deux vieux machos bourrés, détaillaient les promesses érotiques de la muse de David Lynch à l'époque, en toute impunité, nous semble-t-il. C'est-à-dire que Naomi s'adressa à moi avec un accent charmant. « S'il vous plaît, pouvez-vous me passer un peu de pain ?»« Non, pas de sec, je préfère le pain blanc. Merci infiniment. » Dans un français parfait.
Voilà, alors j'ai choisi cet extrait-là parce que toutes les autres histoires particulièrement savoureuses, effectivement, et pleines d'humour, eh bien, il faut les passer un peu en distance. Donc à la radio, c'est pas très pratique, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, tout ce que vous racontez, c'est vrai, Patrick Chesnais, y compris lorsque vous parlez de vos partenaires de théâtre, y compris lorsque vous racontez les bêtises que vous avez pu faire en oubliant d'entrer en scène parce que vous lisiez un journal, par exemple, tout ça, oui. C'est vrai.
Ah bah oui.
Il n'y a aucune invention là-dedans.
Ah non. C'est marrant parce qu'on m'a posé, pas tout le temps, mais on me repose d'une façon répétée la question, est-ce que tout ça est vrai ? Donc je prends ça plutôt comme un compliment, parce
bah oui.
que c'est peut-être un petit peu même en dessous de ce que ça a pu être. Et je me dis que donc, ce qu'on lit et ce que j'ai vécu est intéressant, marrant, enfin, iconoclaste. C'est une aventure perpétuelle, quoi.
Voilà. Et c'est vrai que vous parlez souvent de votre métier d'acteur, des rencontres que vous avez faites dans le cadre de votre profession. Être acteur, ça rend la vie spectaculaire.
Alors, attendez, j'essaie de réfléchir à la réponse que je peux éventuellement essayer de vous donner. Je crois qu'être acteur, c'est une aventure artistique, bien sûr, c'est aussi une aventure humaine. C'est se repaître du spectacle du monde et des humains qui l'habitent et en faire son sucre, enfin s'en servir pour incarner, pour créer des univers, des personnages, pour donner à voir la condition des hommes. Et on est est-ce que c'est spectaculaire? Oui, par moments, être acteur doit être spectaculaire, parce que spectaculaire, il y a spectacle.
Voilà, et justement, alors, dans ce spectacle, vous avez le texte en main, et tout de suite, la complicité entre vous et le public s'installe. Il faut dire qu'au théâtre actuel, vous êtes très proche, hein, géographiquement parlant, du public. Comment est-ce que le comédien chevronné que vous êtes, sans le public, noue cette relation très, très, très intime avec des gens, finalement, que vous ne reverrez sans doute jamais?
Oui. Alors, deux choses. D'abord, j'aime bien lire. Ça ne m'empêche pas de jouer, d'incarner, d'avoir demande, de créer un lien avec les gens. Ce n'est pas une lecture. Et alors, je suis très sensible aussi à l'écoute et à la vibration. Quand je dis vibration, ça peut être un silence total et absolu. C'est une forme de vibration du public. Et c'est le public qui vient jouer avec moi ou moi, je viens jouer avec le public. C'est un partage qu'on a ensemble et on essaye de... J'essaye de faire en sorte qu'ils viennent jouer avec moi, respirer avec moi. Donc, je leur demande vraiment une énorme participation, même quand ce n'est pas forcément le rire, hein, quand c'est muet. Mais on sent les tensions, on sent le...
Et ça, vous vous en nourrissez?
Ah oui.
D'une représentation à une autre, évidemment, ça peut donner quelque chose de complètement différent.
Oui, oui, oui. Mais un silence total, absolu, c'est une réplique que nous donne le public.
Il y a aussi dans l'arrière-salle, dans les coulisses de ce spectacle, plus précisément, votre fille, Émilie, qui est aussi comédienne, oui, metteuse en scène, réalisatrice. Elle a apporté son regard et son oreille à ce spectacle. En quoi c'était nécessaire, en quoi c'était fécond d'avoir votre fille à vos côtés sur ce spectacle-là?
J'avais besoin d'un œil extérieur qui m'accompagne, qui me guide. Et je sais que le regard d'Émilie, ma fille, est absolument sûr et implacable. Quand je dis implacable, ce n'est pas méchant, mais elle dit les choses. En plus, elle a apporté une illustration, elle a apporté l'habillage, la mise en scène, de la musique, des petites projections de temps en temps, mais d'une façon très succincte, très... partielle, qui accompagne le spectacle, qui accompagne la lecture. Et voilà, elle est là tous les soirs. Elle me parle de comment s'est passé le spectacle, des instants qui ont été forts, des instants qui ont été un peu moins par rapport à la veille, etc. Enfin, etc. Voilà.
Ça vous apporte quoi, Patrick Chesnais, d'être sur scène dans le off du Festival d'Avignon?
Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est une aventure de plus. J'aime bien Avignon. J'étais déjà venu il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, pour juste toujours des lettres où je lisais. C'était des lettres de Dostoïevski pendant sa période où il était addict au jeu. Et j'ai gardé un très bon souvenir. Voilà, donc, si vous voulez... Je suis sollicité pour reprendre ce spectacle à Paris. Donc, je voulais avoir la confirmation que c'était un spectacle public. J'avais déjà fait l'année dernière dans un festival, je ne sais plus où. J'avais senti l'impact que ça a donné. Et je me suis dit que j'allais tenter l'expérience à Avignon, c'est un endroit que j'aime bien, puis c'est la fête du théâtre et tout ça. Et voilà.
Voilà, et à Avignon, comme ailleurs, les spectateurs n'ont pas beaucoup de mal à vous reconnaître. Enfin, ou pas.
Il y a le timide, mais qui a osé, qui met les formes. Pardon, je m'excuse de vous déranger. Hein. Non, mais vous devez être importuné tout le temps. Je ne vais surtout pas vous embêter et abuser de votre temps. Hein. Excusez-moi encore. Hein. J'espère que vous m'en voulez pas. Hein. Je m'excuse de vous demander pardon. Hein. Et puis, il y a l'énervé, mais j'en ai rien à foutre. Et pour qui il se prend, lui? Et alors? C'est pas parce que... En plus, je n'ai pas trouvé terrible dans les couloirs du doute. Il m'a toujours énervé. Et il y a aussi... Ma femme vous adore. Oh, mais vraiment! Quand je vais lui dire ça, wow! Qui, moi? Ah, oui, non, non, moi aussi, je vous aime bien. Mais alors, ma femme, ou alors ma grand-mère vous adore depuis qu'elle est toute petite. Il y a... Monsieur, je vous ai reconnu malgré vos lunettes. Génial. Vous pouvez me faire une petite signature? J'ai que mon ticket de caisse. Ou alors sur ma main, le gourmand. Je pourrais faire un selfie? Merci. Maintenant, avec ma femme. Sylvie, viens faire une photo avec monsieur. Regarde. Et mon fils, Henri, viens là. Dépêche-toi. Tu reconnais monsieur? Allez, souris. Ben vas-y, ben oui, c'est lui, vas-y. Il y a le couple que je crois sur un marché, dans une petite ville du Nord, et qui chuchote très fort. Tout le village entend. René, regarde-le, c'est lui là-bas, c'est lui, c'est Chenet. Qui? Chenet. Tu sais bien, c'est celui qu'on n'aime pas.
Voilà, et nous ici à VMDN, on vous aime, Patrick Chenet, merci. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Merci d'être passé nous voir. Lettre d'excuse, c'est donc au Théâtre Actuel à 19h40 jusqu'au 21 juillet. Relâche les jeudis. When I get home, I want you. Places to be. Places to be. Places to be, Fred Again et Anderson .Paak dans la playlist RFI de ce mois de juin et dans VMDN, toujours en direct du Festival d'Avignon. Bonjour Baptiste Antoine.
Bonjour Jean-François.
Vous êtes allé voir pour nous la nouvelle pièce de Thiago Rodriguez. C'est pour sa première collaboration avec la troupe de la Comédie Française. Il n'a pas choisi n'importe quel endroit du festival qu'il dirige. Il s'est installé dans l'un des plus beaux sites du Festival d'Avignon, The Place to Be, en quelque sorte, la carrière de Boulbon, où il présentait Hécube, pas Hécube, d'après Euripide.
Et oui, Jean-François, un lieu magnifique que je découvrais pour la première fois, un écrin de pierre, sorte de théâtre antique minéral à couper le souffle, qui accueille la nouvelle création du metteur en scène portugais. Pour cette nouvelle édition du festival, Tiago Rodrigues voulait s'emparer d'un fait réel qui l'a bouleversé. Un drame qui a touché l'une de ses comédiennes lors d'une création à Genève en Suisse, celui du combat d'une mère pour son enfant autiste maltraité dans l'institution dans laquelle il a été placé. Et pour raconter cette quête de justice et aborder le sujet de la négligence des plus vulnérables, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, il n'a pas hésité longtemps pour le choix de l'œuvre.
Et Cube, évidemment, d'Euripide, parce que c'est cette pièce sur la colère d'une mère, reine de Troie, devenue esclave après la chute de Troie, qui exige justice pour son enfant assassiné par un ami. Et elle est aussi le portrait le plus beau d'une mère en colère pour son enfant, avec ce super pouvoir des mères qui vient de l'amour inconditionnel de ses enfants, qu'avec un doigt peuvent bouger une voiture ou un bâtiment.
Je suis prête! Des mois, des années, peu m'importe, je suis prête à aboyer, 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 aboyer pour le reste de ma vie s'il le faut. Aboyer jusqu'à ce que... Comment te dire? Je sais que ça n'aboutira peut-être à rien, mais c'est quoi l'alternative? Autiste ne peut pas aboyer, tu comprends? Je dois aboyer pour lui et pour moi.
Alors on reconnaît là, Baptiste, hein, toute la fougue d'Elsa Le Poivre de la Comédie Française que nous avions reçue ici même à Avignon. C'était pour la pièce Les Damnés d'Ivo Vanov.
Tout à fait, Jean-François, vous avez raison. Et pour ce projet, Elsa Le Poivre était pour Tiago Rodrigues une évidence. Une comédienne dont il admire le talent de tragédienne, mais aussi les qualités humaines.
La première chose que je savais, c'est que ça serait à la Comédie Française et ça serait avec Elsa. Ses choix sont certes d'une grande intelligence de comédienne, mais en premier plan, elle raconte quelque chose de qui elle est. Elle ne se cache pas derrière sa technique, un personnage. Elle se révèle, elle s'exprime à travers ça.
Et je vous le confirme, Jean-François, Elsa Le Poivre est parfaite pour ce rôle. Elle incarne avec force et beaucoup d'émotion le rôle de Nadia Roger, une comédienne prise dans les tourments de son combat de mère face à l'injustice d'un système étatique défaillant et où se superpose avec ambiguïté celui d'une enquête judiciaire. Nadia embrasse alors la souffrance de son personnage d'Écube qu'elle doit jouer sur scène. La fiction rejoint la réalité, la tragédie théâtrale universelle transperce la tragédie intime d'une vie.
Cette douleur-là, d'être victime d'un sentiment d'injustice, c'est le pire. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on sent qu'il y a une fougue, une rage qui peut se créer en nous. Voilà. Et Nadia Roger, elle est tout processus de la pièce, c'est ça. C'est comment cette rage s'empare de cette actrice, mais aussi de cette mère et les difficultés qu'elle a à mener de front ces deux pôles dans sa vie.
Au théâtre, Nadia essaye de s'imprégner de la douleur d'Écube. Elle se dit peut-être que la douleur d'Écube est plus grande que la sienne. Peut-être se sent-elle soulagée de vivre sur scène une douleur plus grande que la sienne. Il existe toujours des peines plus grandes que les nôtres. Nous pensons parfois que notre douleur est unique et sans précédent, que personne n'a jamais autant souffert que nous dans l'histoire de l'humanité. Mais il suffit d'aller au théâtre.
Alors on le sait, Tiago Rodrigues a coutume de dire qu'il n'écrit pas de pièces pour le théâtre, mais pour et avec les comédiens qui font la pièce. Un processus créatif collaboratif où rien n'est figé dans le marbre. Une liberté de travailler qui lui semblait, de prime abord, ne pas correspondre avec les méthodes de la Comédie Française. Il a été vite assuré.
On a eu notre première maintenant. Le dernier mot que j'ai écrit était écrit il y a 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Il y a un processus de travail qui est très où le texte est très évolutif pendant les répétitions. Et la Comédie Française a dit ouais, certes, parfois on a l'habitude d'avoir le texte appris par cœur des semaines avant la première répétition, mais il faut pas oublier qu'on a la maison de Molière. Tu proposes rien de nouveau pour nous.
Et c'est donc autour de ces 7 comédiens, 7 figures antiques et contemporaines, dans une mise en scène très sobre, où l'austérité impressionnante de la carrière de Boulbon se suffit elle-même, que l'universalité de la tragédie touche le public, un rôle qui anime Elsa Le Poivre dans sa vie de femme et d'actrice.
Quand je sens que ça touche à des endroits très précis au niveau des spectateurs, et donc il y a vraiment cette catharsis qui peut avoir lieu, où d'un coup je deviens une porte-parole d'une furie, d'une colère, enfin, c'est tous les sentiments qui nous traversent tous, et puis quand le théâtre peut être un exutoire ou un relais, ben, j'avoue que je suis assez fière de faire ce métier dans ces moments-là.
Try a little tenderness, la douceur de Otis Redding, une des musiques qui ponctue d'ailleurs cette création signée Thiago Rodriguez, en collaboration avec la troupe de la Comédie Française, Écube pas Écube. C'est donc à découvrir jusqu'au 16 juillet, sauf les mercredis, à la Carrière de Boulbon, dans le cadre de ce 78e Festival d'Avignon. Merci, c'était Baptiste Antoine dans FMDN.
Quiero que tu pecho sea mi cama, tus brazos y tus piernas sean mis ramas, la playa que se respalda con el pelo de tus olas, con la arena de tu espalda, y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan. Los abres y me estrello, se rompen las nubes, se disparan los destellos y viajé cuando me vieron, porque son como los cielos que se abrieron, porque nunca están vacíos. Están llenos de corrientes como cuando se desborda el río. Eres una vez sola, te disparas como una pistola. Eres de los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron. Nos descubrimos como un solo de requinto, como el sol descubre a las mañanas por instinto, para darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas, soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas, coger la ola completa con todo lo que venga, abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua. Y fui lo que seré y lo que soy, aunque no quiera, los ayeres son de hoy. Fui lo que me faltó decir, soy de los lugares que todavía quiero ir, porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa. Mejor que el tiempo nos persiga, contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Cuando siento las tardes acercarse, ojalá y que los finales olvidaran terminarse. Y no quiero que se acabe. Y no quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Y no quiero que se acabe.
Quiero que se acabe. Eres tanto que no cabes. Que no cabes. Y eres tanto que no cabes. Yo no quiero que se acabe. Y eres tanto que no cabes.
Trescientos Trece, le rapport portoricain Residente avec les voix de Penélope Cruz et de Sylvia Pérez Cruz, qui sera en concert le 21 juillet à l'Opéra Grand Avignon dans le cadre de cette 78e édition qui met l'Espagne à l'honneur, comme vous le savez. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain avec deux spectacles, dans le In Quichotte de Gwenaël Morin, d'après l'œuvre de Cervantes, et dans le Off Après les ruines de Bertrand Sinapi, qui nous parle de l'exil et des exilés qui ont trouvé refuge en terre européenne. Et vous m'en direz des nouvelles.